Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, on était à Ottawa, moi, mon épouse, donc on est rentré hier soir. Alors, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, juste pour vous dire que je ne suis pas pasteur de l'église, si nos pasteurs sont en vacances, et je fais partie du comité, et actuellement, c'est. Dans la prédication et d'autres personnes, je crois aussi, qui vont venir. Donc, nous sommes dans une série des paraboles. Donc, la première personne qui a commencé avec cette série, c'est Emmanuel, qui nous a parlé de l'ensemble des introductions sur les paraboles. Et précisément, la parabole des 10 vierges. Et puis, la semaine passée, c'est notre frère Mario qui a parlé de le ciel et l'enfer. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de prier sans relâche. Pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc au chapitre 18, versets 1 à 8, que nous allons lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge et qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, quand on essaie de voir cette parabole, on voit une femme qui veut qu'on fasse justice. Une femme qui va voir le juge. La seule raison, c'est quoi? Elle veut que le juge puisse faire justice de la partie adversaire de cette femme. Mais le juge, lui, il s'en fiche de cette femme. Malgré tout, la femme insiste. Et après un moment, le juge, il va céder. Il dit quoi au verset 5? Il dit, néanmoins, parce que cette femme veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc en fait, le juge le fait parce qu'il s'est dit, si je continue à refuser, je crois que cette femme risque de me faire du mal. Alors, la clé de la parabole se trouve dans le mot important. Important, quelle est sa signification? On l'emploie pour décrire quelqu'un qui gêne et qui dérange. Ayant essuyé un refus, on aurait eu honte d'insister en redemandant la même chose. Voilà le mot important. C'est un important. Dans la vie courante, la personne qui nous importune le fait parce que la chose demandée a une grande importance à ses yeux. La tiédeur et la mollesse ne sont pas les traits d'un important, car il veut obtenir ce qu'il demande à tout prix. Combien de fois n'avons-nous pas été importunés par un enfant cherchant à obtenir un jouet ou quelque chose d'autre pour que son cœur désire, On le voit, souvent les enfants, tout le temps demandent, je veux que tu m'achètes ceci, je veux que tu m'achètes cela, parce que l'enfant a besoin de ça. Mais quand tu trouves que ses parents n'agissent pas, il insiste. Le Seigneur souligne l'importance d'insister dans la prière auprès du Père. Ce n'est peut-être pas dans notre nature d'importuner les gens. On pourrait même penser que ce serait très impoli de notre part. Que cela n'est pas le propre des gens bien élevés. Mais la leçon de la parabole, ce n'est pas la courtoisie. Le Seigneur veut qu'on saisisse le fait que ce qu'on demande au Père est important. De là, la nécessité d'être important. Un des sujets de prière les plus vitaux est l'état personnel du croyant. Notre tiédeur, notre faiblesse, nos chutes et notre amour propre. Ne sont-ils pas autant de sujets de prière importants auprès de Dieu? Si dans ces domaines-là, sans parler de l'intercession pour les convertis, nous étions opportuns, nous verrions de grands changements dans nos vies. Hélas, en se contentant de quelques lamentations dans la présence de Dieu et en continu, nous devons nous poser la question, sommes-nous importants, dans la prière? Ainsi, nous voyons l'importance et l'importunité dans la prière. Prions. Père éternel, oui, tu es le Dieu vivant. Tu es celui, Seigneur, qui donne la paix. Tu es celui, Seigneur, qui soulage. Tu es celui, Seigneur, qui répond favorablement. Merci Seigneur de nous avoir parlé de cette parabole. Parce que tu sais que tu es la solution à nos problèmes. Sois avec nous Seigneur ce matin et permets que cette parole puisse toucher chacun de nous afin qu'on puisse réaliser que nous devons toujours persévérer dans la prière. Permets, Seigneur, que cette parabole puisse aussi toucher, Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas ou qui cherchent une solution à leurs problèmes. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Nous nous confions en toi, Seigneur. C'est avec nous ce matin. C'est en tout puissant Jésus que j'ai pris. Amen. Alors, en examinant la parabole du juge inique dans Luc 18, on voit la persévérance. Le juge qui est dépeint ici ne se soucie pas de la justice et n'a aucune pitié pour ceux qui souffrent. Ça, c'est le juge en question. Il repoussait continuellement la veuve qui lui exposait son cas. Plusieurs fois, elle n'était venue vers lui que pour être traité avec mépris et chassé du tribunal. Vous voyez bien, la femme vient juste pour qu'on lui fasse justice, elle est chassée du tribunal par le juge. Le juge savait qu'elle était dans son droit. Donc il est conscient que non, cette femme-là est dans son droit parce qu'elle vient réclamer justice. Il aurait pu aussitôt lui faire justice. Mais il ne le voulait pas. Il désirait montrer que son pouvoir était discrétionnaire. Et il se plaisait à lui voir plaider, prier et supplier en vain. Mais elle ne se laissait pas décourager. Malgré l'indifférence et la dureté du juge, elle ne cessait de venir lui présenter sa demande jusqu'à ce qu'il consentît à s'occuper de son cas. Alors, dans la parole, le juge dit quoi? Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, ça c'est le juge, dit-il. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, c'est-à-dire cette veuve vraiment le gêne, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc en fait, cette juge accepte à cause de la peur, le fait que je refuse aussitôt, si c'est comme ça, la femme juste risque de se révolter contre moi. Donc c'était un juge qui a fait justice à cause de quelque chose. Pour sauver sa réputation et ne pas donner trop de publicité à son jugement partial, il rendit justice à cette femme persévérante. Le Seigneur ajouta dans la parole, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » C'est Jésus qui dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le juge qui lui ne voulait pas rendre justice à cette femme accepte parce qu'il a eu peur que cette femme puisse lui rompre la tête, mais Dieu n'accepte pas parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Non, Dieu le fait parce que Dieu est amour. Donc on voit bien que Dieu n'est pas comme ce juge-là. Jésus établit ici un contraste frappant entre le juge inique et Dieu. L'homme de loi ne cède aux instances de la veuve que par égoïsme pour assurer sa tranquillité. Il n'éprouve aucune pitié pour elle. Sa misère le laisse insensible. Comme l'attitude de Dieu à l'égard de ceux qui le cherchent est différente, c'est avec une compassion infinie qu'il écoute les appels des nécessiteux et des affligés. Veuve sans amis, cette pauvre femme n'avait pas les moyens de redresser sa situation matérielle. De même, par le péché, l'homme a perdu tout contact avec Dieu. Et ne peut se sauver tout seul. Mais par Jésus-Christ, l'accès auprès du Père lui est assuré. Dieu chérit particulièrement ses élus. Il les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière pour qu'ils publient sa louange et brillent comme des phares au milieu des ténèbres de ce monde. Le juge inique nous portait aucun intérêt à cette pauvre veuve qui l'importunait pour obtenir justice. Cependant, pour se soustraire à ses supplications pitoyables, il prêta l'oreille à sa cause et la délivra de ses adversaires. Mais Dieu aime ses enfants d'un amour infini. Ce qu'il a de plus cher sur la terre, c'est son Église. La requête de la veuve, fais-moi justice de ma partie adverse, représente les prières des enfants de Dieu. L'ennemi est leur grand adversaire, l'accusateur, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Son œuvre ne consiste qu'à dénaturer et attaquer, à séduire et détruire. Par cette parabole, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'ils doivent prier pour être délivrés de la puissance de l'ennemi et de ses suppôts. Dans cette parabole, le Christ nous montre quelle attitude nous devons adopter. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jésus est notre exemple. lui qui ne fit rien pour revendiquer ses droits ou se délivrer lui-même. Il remit sa cause entre les mains de Dieu. De même, ses disciples ne doivent ni accuser, ni condamner, ni recourir à la force pour se tirer d'affaire. Si des œuvres inexplicables surviennent, il ne faut pas qu'elles nous ravissent notre paix intérieure. Quelqu'injuste que soit la façon dont nous pourrons être traités, ne nous laissons pas aller à la colère. En nourrissant un esprit de vengeance, nous nous nuisons à nous-mêmes. Nous perdons notre confiance en Dieu et nous attristons le Saint-Esprit. Auprès de nous se tient un témoin, un messager céleste qui élèvera en notre faveur un étendard contre l'ennemi. Il nous couvrira des rayons éclatants du soleil de justice. Ainsi, l'ennemi qui ne peut franchir ce bouclier lumineux ne nous atteindra pas. L'humanité s'enlisant de plus en plus dans le mal. Aucun d'entre nous ne peut prétendre qu'il n'aura jamais des difficultés. Ça, tout le monde le sait. On est chrétien. On rencontre des difficultés. C'est le propre d'un chrétien. On n'est pas chrétien pour être. Je suis chrétien, donc dans ma vie, il n'y a rien, il n'y a pas de difficultés. Je suis comme. Non. On est chrétien, on rencontre des difficultés. Et c'est là où Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on est réellement chrétien. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les difficultés, ils se disent, je suis devenu chrétien, j'ai trop de difficultés. Alors finalement donc, ça ne servait pas d'être chrétien. Mais non. Dieu veut te mettre à l'épreuve pour voir si réellement tu es un chrétien engagé. Donc, rencontrer des difficultés, c'est le propre d'un chrétien. Et c'est là où il va vraiment prouver qu'il est vraiment chrétien. Ce sont précisément elles, donc les difficultés, qui nous amènent à pénétrer dans la salle d'audience du Très-Haut, où nous pouvons recevoir les conseils de celui qui est infini en sagesse. Le Seigneur nous dit dans Psaume chapitre 50 au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. » Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il nous invite à l'implorer avec zèle et à lui confier notre perplexité, notre dénuement et le besoin que nous éprouvons de recevoir son aide. Dès que surviennent les difficultés, présentons-lui nos requêtes avec ferveur. Par l'importunité de nos prières, je répète bien, par l'importunité de nos prières, nous démontrerons que nous avons pleine confiance en lui. Le sentiment de notre indigence nous incite à prier ardemment. Et notre Père céleste est ému par nos supplications. Ceux qui souffrent la persécution pour leur foi sont souvent tentés de se croire délaissés de Dieu. À vue humaine, ils constituent une minorité et selon toute apparence, leur adversaire triomphe. Qu'ils ne soient pas troublés dans leur conscience, car celui qui a souffert pour eux et qui s'est chargé de leur affliction et de leur douleur ne les a pas abandonnés. Les enfants de Dieu ne sont pas laissés seuls et sans défense. La prière permet à la toute-puissance du Très-Haut d'agir en notre faveur. Grâce à elle, grâce à la prière bien sûr, des hommes vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Tout ça, c'est grâce à la prière. Si un juge injuste cède finalement devant l'insistance de la veuve, à plus forte raison, Dieu exaucera les prières persévérantes de ses saints. Nous sommes appelés à prier sans cesse. D'ailleurs, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Verset 17. Et nous devons le faire jour et nuit. La question à la fin de la parabole laisse supposer qu'au fur et à mesure que le temps passe, le saint exercice, la prière, se perdra. Il pose la question, est-ce que, je reprends cette partie, au Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La veuve n'avait aucun autre recours. Elle n'était pas en mesure d'aller trouver son adversaire pour régler le différend. Si nous avons un problème, on ne peut pas aller le régler à notre adversaire, mais on le confie à notre Seigneur. Seule l'autorité dûment reconnue dans le pays était habilitée pour trancher le problème et venger cette femme sans défense. Que Dieu nous fasse comprendre que notre seul recours dans ce monde est la prière. Non pas pour demander vengeance, mais pour obtenir ce qui est conforme à la volonté de Dieu et qui ne s'obtient que par la prière. D'ailleurs, la chanson « Nous voulons voir Jésus élevé », il y a une partie où on dit « La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre ». Donc on voit que la prière, c'est notre force. La prière et la foi sont indissolubles, car la prière est une évidence vivante de la foi dans le cœur du saint. Ainsi, l'absence de la prière persévérante dans la vie du chrétien est une évidence de déperdition de la foi. Nous avons besoin des chrétiens qui sachent persévérer dans la prière. Retenons l'exemple de Daniel, qui priait longuement sans réponse. On le voit dans Daniel 9 et 10. Sans doute, avait-il des moments où il se sentait découragé, ne voyant pas l'exaucement de ses supplications? Mais il continuait malgré tout. La parabole nous met en garde contre l'idée d'une réponse rapide à la prière. Si j'ai prié une fois, ça ne veut pas dire que tout de suite je vais avoir la réponse. Mais la parabole nous dit, priez sans se relâcher. Et nous sommes invités à nous armer de patience lorsque nous nous trouvons devant le trône de la grâce. On va regarder dans Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, donc il leur dit, c'est Jésus, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Jésus qui parle, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait à cause de son importunité. Au verset 9, et moi, donc Jésus, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus continue encore. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les êtres impurs les gens des pécheurs, les hommes, arrivent à donner quelque chose de bon. À combien plus forte raison, Dieu. Alors, comme la parabole du juge unique du chapitre 18, du juge unique avec la veuve, celle qu'on vient de lire est une leçon sur la prière. Pour les auditeurs, les faits de la parabole n'avaient rien d'étonnant. L'hospitalité étant une des premières qualités à l'époque. Cela aurait été tout à fait normal que l'on cherche du pain pour le visiteur qui est inattendu, bien sûr. Même à minuit, voyez-vous, et à minuit où tout le monde dort, la demande de l'homme n'avait rien d'égoïste. Ce n'était pas pour lui qu'il allait frapper à la porte de son voisin. Dans la parabole du commandeur, le commandeur est maintes fois repoussé. Et bien que, dis-moi, maintes fois repoussé. Dieu ne le fera pas. Mais il ne se décourage pas. Ainsi, nos prières ne semblent pas toujours avoir des réponses immédiates. Mais le Christ enseigne que nous ne devons pas cesser de prier. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut qu'on se dit, qu'on baisse les bras, oh, j'ai prié, mais le Seigneur ne répond pas. Non! Continuons à demander. La prière n'est pas destinée à produire un changement dans les sentiments de Dieu, mais à nous mettre en harmonie avec lui. Lorsque nous lui adressons une demande, il peut juger utile que nous fassions tout d'abord notre examen de conscience et que nous nous repentions de notre péché. C'est pourquoi il nous fait passer par l'épreuve et l'humiliation afin que nous comprenions ce qu'il entrave, l'action de son esprit en nous. Je crois que si, par exemple, on a un travail, on a besoin d'un travail, et que on est en colère contre quelqu'un, on se dit que non, on lui lance des mauvaises choses, ou le mauvais sort, et on vient demander à Dieu, « Dieu, donne-moi le travail. » Je crois que ça ne marchera pas. Tu n'es pas en paix avec ton prochain, mais tu veux que Dieu puisse agir parce que tu lui demandes quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Le voisin égoïste de la parole ne représente pas le caractère de Dieu. Ici, nous n'avons pas une leçon tirée d'une comparaison, mais d'un contraste. Il s'agit d'un homme égoïste qui accède à une requête urgente pour être débarrassé de celui qui trouble son repos. Parce qu'on l'importune. Cette personne veut dormir, mais l'ami continue toujours à frapper. Fin de compte, dit, oh, moi j'ai envie de dormir. Moi, écoute, prends le pain que tu as besoin, laisse-moi la paix. Mais Dieu prend plaisir à donner. Il est plein de compassion et ne demande qu'à exaucer les prières qui lui sont présentées avec foi. Je dis bien avec foi. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et en même temps en doute. Ça ne marchera pas. On demande avec foi. Je sais que je l'aurai. Je l'ai même déjà. Mais si déjà on met l'esprit de doute, ça ne marchera jamais. Donc, il faut avoir la foi quand on demande à Dieu. Il répand sur nous ses bienfaits afin que nous puissions en faire part à d'autres et que nous devenions semblables à lui. Le Christ déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit encore, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pour fortifier notre confiance en Dieu, Jésus nous enseigne à nous adresser à lui. Il nous donne le privilège d'appeler le Dieu infini, notre Père. Aussi bien en lui parlant qu'en parlant de lui. Ce nom est un signe de notre amour et de notre confiance en lui. Le gage de ses égards pour nous et des relations qu'il désire entretenir avec nous. Lorsque nous le prononçons pour demander une faveur à une bénédiction, il résonne comme une mélodie à ses oreilles, afin que nous ne soyons pas tentés de nous accuser de présomption en l'appelant de ce nom. Il nous le répète maintes fois, car il veut que ce terme nous soit familier. Dieu nous considère comme ses enfants. Il nous a rachetés d'un monde indifférent et nous a choisis pour que nous devenions membres de la famille royale. Fils et filles du roi du ciel, il nous demande d'avoir en lui une confiance plus grande encore que celle de l'enfant en son père terrestre. Les parents aiment leurs enfants. Personne ne me dira le contraire. Mais l'amour de Dieu est pour nous plus grand, plus large, plus profond que l'amour humain ne peut l'être. Il est infini, cet amour. Dès lors, si des parents savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Les enseignements du Christ, ça veut dire que la parabole, ou les paraboles, au sujet de la prière, doivent être examinés attentivement, car celle-ci est une science divine. Et les exemples du maître mettent en relief des principes que tous doivent comprendre. Jésus nous montre ce qu'est le véritable esprit de prière. Il nous apprend à persévérer dans nos requêtes et nous assure que Dieu est tout disposé à écouter et à nous exaucer. Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrés seulement sur nos propres besoins. Il faut demander afin de pouvoir donner. Laissons-nous inspirer par la ligne directrice de la vie du Christ. Je me sanctifie moi-même pour eux, dit-il, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La même piété, le même esprit de sacrifice, la même soumission aux exigences de la parole de Dieu doivent se retrouver dans la vie de ses serviteurs. Notre rôle ici-bas n'est pas de nous servir ou de nous complaire en nous-mêmes. Mais de glorifier le Seigneur en collaborant avec lui au salut des pécheurs. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu en vue de les communiquer à d'autres. Nous ne pouvons recevoir que dans la mesure où nous donnons. Je crois que quelqu'un qui est égoïste, Dieu ne donnera pas. Tu veux que Dieu te donne, mais toi-même tu es égoïste. Ça ne marche pas avec Dieu. Les trésors du ciel ne nous seront pas plus longtemps dispensés si nous ne les partageons pas avec ceux qui nous entourent. Il faut que nous nous examinions avec soin les bases sur lesquelles repose notre foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, si nous sommes infidèles, nous présentons un chèque au Seigneur sans tenir compte des clauses qui nous permettraient de l'encaisser. Nous rappelons à Dieu ses promesses et nous lui demandons de les accomplir, mais en nous exaucant, il déshonorerait son nom. Voici l'une de ses promesses dans Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'apôtre Jean déclare encore. Si nous gardons ces commandements, c'est l'apôtre Jean. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Dieu ne dit pas demandez une seule fois et vous recevez. Non, il n'a pas dit ça. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Sur la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais beaucoup ne possèdent pas une foi vivante, ce qui les empêche de voir la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Il se fie plus à leurs œuvres qu'à celle de Dieu à leur égard. Ils prennent tout en charge. Vous dites les confier à Dieu? Non, ils prennent tout en charge. Établissent des plans. Font des projets. Mais ils prient très peu. N'ayant en Dieu qu'une confiance limitée. Ils croient avoir la foi, mais ce n'est qu'une impulsion passagère. Inconscient de leurs besoins et de l'empressement de Dieu à leur accorder ce qu'ils demandent, ils ne persévèrent pas dans leur requête. Nos prières doivent être aussi instantes et aussi assidues que celles de l'ami dépourvu de pain qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grandes seront notre ferveur et notre constante, plus étroite aussi sera notre communion avec le Christ. Les bénédictions reçues seront proportionnées à notre foi. Prier et croire, telle est la part de l'homme. Veillez en priant. Veillez et coopérez avec Dieu qui entend les prières. N'oublions pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parlons et agissons en harmonie avec nos requêtes. Ou bien l'épreuve démontrera l'authenticité de notre foi. Ou bien elle prouvera que nos prières n'ont été qu'une forme. Au milieu des angoisses et des difficultés, ne regardons pas à l'homme pour être secouru. Mettons notre confiance en Dieu. L'habitude de raconter nos problèmes à d'autres nous affaiblit et ne fait pas de bien à ceux qui nous écoutent. Nous plaçons sur eux le fardeau de misères spirituelles qui sont incapables de soulager. L'homme ne peut pas nous apporter une réponse. Nous cherchons le secours de l'homme faillible et limité, alors que celui du Dieu infini est à notre disposition. Nous n'avons pas besoin d'aller aux extrémités du monde pour trouver la sagesse, car Dieu est tout près de nous. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquérons, mais du Seigneur. Nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le recherchions avec foi, que nous attendions à de grandes choses de sa part. Il désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles et spirituelles. Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et l'habileté. Dans ce cas, mettons nos talents au service du Seigneur et demandons-lui la sagesse, elle nous sera accordée. Que la parole du Christ soit notre assurance. Ne nous a-t-il pas conviés à venir à lui? Évitons de parler de nos sujets de découragement. Nous y perdrions beaucoup. En regardant aux apparences, en murmurant, quand surviennent les difficultés, nous mettons en évidence une foi faible et défaillante. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible Le Seigneur est riche en ressources. Il est le maître de l'univers. Avec foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et peut agir avec efficacité. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qui nous exaucera. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voyez donc, on demande quelque chose qui ne paraît pas assez grand, mais il donne Dieu encore plus grand que ce qu'on demande. Nous avons la foi. Le Christ a déclaré, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » On voit l'exemple dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, le cas d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. En conclusion, Dieu répond aux prières. Il est contraire aux deux personnages dans les paraboles. Il est contraire au juge unique. Il est contraire à l'ami qui dormait. Il n'attend que la demande, et tant que notre demande, qu'on s'adresse à lui. Même le mauvais juge fait justice à la femme. Combien de fois, si nous lui adressons nos requêtes, il nous encourage à prier sans relâche. Prier assez n'est pas un fardeau à la loi, et ni une loi, mais il découle de l'Évangile. Nous avons Jésus comme médiateur. Le Seigneur Jésus déclare qu'il sera honoré par ceux qui s'approchent de lui et le servent avec fidélité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Le bras du Tout-Puissant est étendu pour nous conduire toujours plus loin. En avant, dit le Seigneur Jésus, je vous enverrai du secours. C'est en mon nom que vous demandez, donc vous recevrez. Je serai honoré devant ceux qui attendent votre chute. Ils assisteront au triomphe de ma parole. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que tous ceux qui sont affligés ou injustement traités crient à Dieu. Détournez-vous de ceux dont le cœur est dur comme l'acier et présentez vos requêtes à votre Créateur. Il ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur contrit. Aucune prière sincère n'est laissée sans réponse. Le Seigneur Jésus entend les supplications du plus faible d'entre nous. Quand nous lui exposons les désirs de nos cœurs dans le silence de notre chambre, ou quand nous murmurons une prière tout en cheminant, nos paroles atteignent le trône du souverain de l'univers. Il est possible qu'aucune oreille humaine ne les entende, mais elles ne peuvent se perdre dans le vide, ni passer inaperçues dans le tumulte de nos occupations quotidiennes. Rien ne peut étouffer le soupir de l'âme. Il s'élève au-dessus du vacarme, de la rue et de la confusion de foule jusqu'au céleste parvis. C'est à Dieu que nous parlons et il entend notre prière. Il n'y a pas lieu de craindre que le Seigneur reste sourd aux prières de ses enfants. Il faut plutôt redouter que ceux-ci dans la tentation et l'épreuve, ne se laisse aller au découragement et ne manque de persévérance dans la prière. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ah, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Jésus. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Si nous consacrons nos vies au service de Dieu, nous ne serons jamais placés dans une situation telle qu'il ne puisse nous secourir. Quelle que soit notre position, nous avons un guide pour nous montrer le chemin. Quels que soient nos perplexes, nous avons un conseiller avisé. Quels que soient nos chagrins, nos deuils, notre solitude, nous avons un ami compatissant. Si dans notre ignorance nous faisons un faux pas, le Christ nous relèvera. Sa voix claire et distincte se fera entendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne délivrera le pauvre qui crie. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Et comment Dieu t'amour? Même si nous avons toutes des péripéties, toutes des choses mauvaises, Romains 8, verset 37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Frères et sœurs, toi qui écoutes cette parole, peut-être que tu es dans la tourmente. Peut-être que tes problèmes ne trouvent pas solution. Jésus t'appelle. Donne-lui seulement ta vie. Décharge sur lui ton fardeau et il fera le reste. Prions. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as apprise ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu viens de dire à ton peuple. Permets Seigneur que nous nous tournons vers toi. Que nous ne puissions pas avoir des gens à qui se confier, mais nous nous confions à toi seulement, Seigneur. Que tu nous donnes la force de persévérer dans la prière, de ne point relâcher, Seigneur, d'avoir la foi en ce qu'on demande. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Donne-nous plein de bénédictions, Seigneur, et continue toujours à nous donner la force. En tout cas, que j'ai pris. Amen.
Amen. Merci, Anon, pour ce message.